OK, on va commencer notre 47e leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la doctrine de la création en général. À venir jusqu'ici, on avait regardé un peu les actes éternels de Dieu et les transactions entre les personnes divines, entre elles. On arrive maintenant à l'exécution des desseins et des décrets de Dieu dans le temps et dans l'espace. Alors, ça comprend différentes choses. Ça comprend la création, ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça comprend aussi la providence, la rédemption et la grâce. Alors, les autres, on va les voir les autres semaines. On commence par la création. On va commencer par définir ce qu'est la création. Alors, il y a deux sens. Il y a le sens figuré et le sens propre du terme. On va commencer par définir le sens figuré du terme. Alors, la Bible parle de la création en un sens figuré, certaines fois. Il faut prendre conscience de ça. Donc, c'est la création de Dieu de façon médiate, c'est-à-dire qu'il le fait en utilisant des moyens. Alors, la création médiate, c'est vraiment la création en utilisant des moyens. Alors, dans la procréation, par exemple, dans Ézéchiel 21, verset 30, ça nous dit « Remets ton épée dans le fourreau, je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. » Voyez-vous, ça parle de la procréation d'une personne et ça utilise le terme « créé », mais ce n'est pas dans le sens « créé ex nihilo » à partir de rien, donc dans le sens de la procréation. Dans Ecclésiaste 12, verset 1, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Voyez-vous, encore une fois, dans Ecclésiaste 12, verset 1, « Souviens-toi de ton Créateur. » Alors, le Seigneur parle, il utilise le mot « création », mais c'est dans le sens que quand le Seigneur utilise un moyen. Donc, nous, on est le moyen par lequel on met des enfants au monde. Mais ce n'est pas de la création immédiate, donc c'est de la création médiate. Parfois, les Saintes Écritures utilisent le mot « créé » dans le sens de la procréation naturelle humaine, de manière telle que la naissance de personne est appelée création. Dieu est présenté comme étant leur créateur. Donc, aussi, un autre sens figuré dans les Écritures, c'est ce qu'on appelle les actes de la providence. Ésaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc, les actes de la providence sont parfois qualifiés de création. Quand il dit « Je crée les ténèbres », aussi le retour des saisons et le renouvellement des plantes, etc. Dans le psaume 104, versets 27 à 30, ça nous dit « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu retires le souffle, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. » Et vous, vraiment, c'est vraiment le sens « créé » dans le sens de « médiate », que le Seigneur utilise un moyen pour faire quelque chose. Maintenant, il y a la création, on vient de voir le sens figuré, et dans la Bible, on parle aussi dans le sens propre du terme. Donc, une création réelle sans moyen. C'est la création qu'on peut qualifier de « immédiate », donc celle à partir du néant, de la production de non-entité à celle de l'être. Autrement dit, c'est le Seigneur qui dit, il utilise sa parole, il n'y a rien, absolument rien, c'est le néant. Et en disant quelque chose, les choses apparaissent. C'est comme quelque chose de très particulier. Genèse 1, versets 3 à 5, Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Là, c'est vraiment la création que les théologiens appellent ex nihilo. C'est une création à partir de rien. Il n'y a rien, c'est le néant. Et Dieu parle et l'univers arrive à son existence spéciale. Donc, du deuxième au sixième jour, Dieu arrangeait le créé. Sa création, c'est le premier jour. Et à partir entre le deuxième et le sixième, il arrangeait ce qui était déjà créé. Hébreux 11, verset 3, c'est peut-être un verset très, très fort pour venir appuyer l'idée que c'est vraiment une création ex nihilo. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mm-hmm. Alors, c'est pas dans le sens un peu de l'évolution, où on dit que les choses existaient et ça a été fait à partir de choses préexistantes. Ça dit bien, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, c'est vraiment un verset très fort dans le sens de la création ex nihilo. Dieu parle, il n'existe rien, à partir du néant, il crée à partir de sa propre parole. Romains 4, verset 17, « Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Alors, il y a des versets comme ça, Hébreux 11, 3, Romains 4, 17, Genèse 1, 3, 5. C'est sûr qu'il y en a qui, même des chrétiens, ont de la misère avec la doctrine de la création ex nihilo parce qu'ils font un compromis entre l'évolution et la doctrine de la création proprement dit. Aucune matière n'existait dans l'éternité avant la création. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créés, ici dans le contexte, c'est Jésus-Christ, car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Deuxième point qu'on va regarder, donc on a vu une définition de la création, on va regarder maintenant l'objet de la création. Donc c'est assez simple, c'est toute chose. Acte 4, verset 24, « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Apocalypse 10, versets 5 et 6, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » Donc, toute chose, et en particulier les cieux, le Seigneur a créé les cieux, donc les galaxies, les étoiles, les planètes, et tout ce qu'elles contiennent. Alors, juste pour faire un petit exercice là-dessus ce matin, j'ai regardé un peu sur Internet pour voir la grandeur de l'univers. Et là, on parle d'un diamètre estimé. Et on parle de l'univers observable. Et là, ils font, quand tu lis des articles là-dessus, on parle d'univers observable parce qu'on n'est pas certain qu'il existe plus grand que ça. On dit bien « observable ». Donc, ce qu'on a vu à l'heure actuelle, qu'on mesure, le diamètre de l'univers, 100 milliards d'années-lumière. 100 milliards d'années-lumière. Donc, le diamètre, c'est quelque chose. Et une année-lumière, c'est 186 000 milles à la seconde. La lumière voyage à faire 25 fois le tour de la Terre en une seconde. Et quand on parle d'années-lumière, c'est que à cette vitesse-là, elle voyagerait pendant 1000 milliards d'années avant que tu voyes le bout. Et ça, c'est l'univers observable. C'est quelque chose qui, moi, ça me fascine beaucoup parce que je trouve que c'est une façon de prendre conscience de la grandeur de la création de Dieu. Et, excusez, on estime à 10 à la puissance 11 le nombre de galaxies. Alors, 10 à la puissance 11, c'est que si tu mets 10 à la puissance 2, ça fait 100. 10 à la puissance 3, ça fait 1000. 10 à la puissance 4, ça fait 10 000. Et là, tu augmentes comme ça. Si tu te rends jusqu'à la puissance 11, ça fait 1000 milliards d'étoiles dans une galaxie. Et là, ça dit qu'il y a 10 à la puissance 22 galaxies. Alors là, on tombe dans les chiffres. On n'est même pas capable de les lire tellement ils sont grands. Alors, il y a juste les mathématiciens qui sont habitués à jongler avec des chiffres semblables. Et on avait parlé aussi du nombre d'atomes dans l'univers estimé, 10 à la puissance 63. C'est quelque chose qui est complètement en dehors de notre capacité de concevoir. Moi, j'aime ça d'en parler parce que je trouve que ça nous fait prendre conscience à quel point Dieu est grand. Et le Seigneur nous dit dans les Écritures qu'il est omniprésent. Donc, il est à cette distance-là, il est aussi présent qu'ici. Alors, c'est spécial. Alors, Dieu a créé le premier ciel, qu'on appelle dans les Écritures l'habitation de Dieu. Ésaïe 66, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» 1 Roi 8, verset 27. « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » C'est assez spécial ici ce qu'il est en train de dire. Il dit, « Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » On a vu tout à l'heure une idée de l'univers observable. Et Dieu dit que ça, là, c'est pas assez grand pour le contenir. C'est qu'il dépasse ça. Il est au-dessus de sa création. Il est plus grand que ça. Et là, on est perdu d'un chiffre. Imaginez-vous la grandeur du Seigneur. C'est comme... inimaginable. Donc, c'est aussi une place. Parce que les Écritures utilisent le Seigneur lui-même, Jésus, quand il est venu sur la terre, a parlé du ciel comme étant une place. Jean 14, versets 2 et 3. Il nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Hébreux 11, verset 10, « Car... il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Ce n'est pas un petit architecte, ce n'est pas un petit constructeur, croyez-moi. Deuxième ciel. On en parle du premier ciel comme étant l'habitation de Dieu lui-même. Le deuxième ciel, on parle de l'univers. Job 22, verset 12. « Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. » Ésaïe 40, verset 6. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » On parlait tout à l'heure du nombre. Imaginez-vous le nombre et il leur donne à toutes des noms. Ils ont tous des noms dans le Seigneur et... Et c'est spécial aussi. Troisième ciel, on parle du premier ciel, l'habitation de Dieu. Le deuxième ciel, l'univers. Le troisième ciel, on en parle dans les Écritures comme étant le paradis. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 4. Et ici, dans le contexte, c'est Paul qui parle de lui à la troisième personne. Il dit, « Je connais un homme en Christ. » Il parle de lui. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Il dit, répète deux fois, parce qu'autrement dit, « Je ne sais pas. » Il dit, « Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Oui, oui, il est enlevé dans le paradis. Et là, il dit qu'il a entendu des paroles ineffables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les exprimer. Même si on voulait, là, qu'on serait l'homme le plus talentueux au monde, on ne serait pas capable. Il dit lui-même, il a entendu des paroles ineffables. Et non seulement sont ineffables, mais ça dit et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, toute chose, le ciel, avec premier, deuxième, troisième ciel, la terre et tout ce qu'elle contient, Genèse 1, versets 1 et 2, et versets 9 et 10. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Versets 9 et 10. Dieu dit, « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. » Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec « terre », il appela l'amas des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Et on a vu, bon, toute chose, le ciel, dans ses premier, deuxième, troisième, et la terre, maintenant la mer, et tout ce qu'elle contient. Psaume 95, verset 5, « La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » Et quand on a regardé un petit peu des émissions à télévision, par exemple, sur la quantité de créatures qu'il y a dans les mers, et on continue, plus on descend dans les profondeurs, on en découvre des nouveaux. Il y en a des, je ne sais pas si on pourrait dire des centaines de milliers, fort probablement des centaines de milliers. Et le Seigneur dit que tout, il a fait non seulement la mer, mais tout ce qui est, tout ce qu'elle contient. Psaume 104, versets 25 et 26. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Et aussi, c'est une autre chose à prendre conscience, c'est quand on parle de tout l'ensemble de toutes ces créatures-là, le Seigneur sait le jour de leur création, c'est tout le déroulement de leur vie, ce qui va se passer dans la vie de toutes ces créatures. C'est quelque chose, c'est presque hallucinant. Pas presque, c'est hallucinant. Troisième point, quand la création a-t-elle commencé? Là, ça c'est un point que si vous allez fouiller un petit peu dans les livres de théologie, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opinions. Cependant, moi, je trouve que les Écritures sont claires. Et alors, dans le temps, la création a commencé dans le temps. Genèse 1:1, la Bible nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, il y a eu un commencement, tout ça. Hébreux 1, verset 10, « Et encore, toi, Seigneur, tu as, au commencement, fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Là où il y a de l'obstination entre les théologiens et entre les différents commentateurs bibliques, c'est sur l'âge de la terre. Moi, je suis de conviction que la terre, l'âge jeune qu'on dit, approximativement 6000 ans, il y en a qui disent dans un range qu'on dit en anglais, entre 6 et 10 000 ou 6 et 15 000, mais la terre jeune. Moi, je crois à ça définitivement. La terre est jeune. Et cependant, vous allez voir que je pense qu'il y a des chrétiens qui sont sincères, mais je pense que c'est comme une forme de compromis avec le monde. Ils ont peur à cause des supposés arguments scientifiques. C'est de la paresse de notre part parce qu'il y a beaucoup de scientifiques chrétiens dans tous les domaines de la science, physique, chimie, paléontologie, name it, comme ils disent en anglais, qui ont examiné les arguments des évolutionnistes et qui sont capables de défaire leurs faux arguments un par un. C'est, moi, j'avoue, personnellement, c'est un peu de la paresse, parce que je sais où aller fouiller, mais je ne suis pas particulièrement intéressé parce que j'y crois au départ. C'est plutôt quand tu es pris avec quelqu'un qui vient te dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Les scientifiques disent que ça, la création a 10 milliards d'années ou 5 milliards d'années, name it, n'importe quoi. Là, si vous, moi, j'avoue que je ne serais pas très ferré pour m'obstiner avec des scientifiques, là, des supposés scientifiques, parce que tout ça, dans le fond, c'est tout basé sur plus sur de la foi que sur de la véritable science. Alors, c'est, mais on a tous les outils aujourd'hui comme chrétiens. On n'a pas à avoir honte de nos croyances parce que on peut toutes aller chercher l'information qu'il faut pour appuyer ce qu'on croit. Quatrième point, l'auteur de la création. Donc, on le sait, les Écritures le disent assez souvent. Dieu seul. Les trois personnes de la divine de la Trinité ont participé à la création. Comme j'avais déjà mentionné dans des leçons précédentes, on est porté en théologie à toujours compartimenter un peu l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on se rend compte assez rapidement, quand on va étudier un petit plus en profondeur, que peu importe l'œuvre de Dieu, il y a toujours une participation de l'autre, des autres personnes aussi. Que ce soit dans la création, dans la rédemption ou dans d'autres choses. Souvent. Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2, qui nous dit que la création a été faite par Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voyez-vous, dans ce verset-là, on attribue à Jésus la création du monde. On va prendre un autre verset, Romains 11, verset 36. C'est de lui, ici on parle du Père, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et dans Genèse 1, 2, on parle de la création par le Saint-Esprit. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, la création a été faite sans instrumentalité, c'est-à-dire à partir du néant, ce que les théologiens appellent ex nihilo, et non à partir de matière préexistante. Cinquième point, la manière et l'ordre de la création. Premier point qu'on va regarder là-dedans, c'est par la toute-puissance de sa volonté et de sa parole. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'ordre maintenant de la création, les six jours de la création, moi j'ai la conviction très forte que les jours de la création sont des véritables jours de 24 heures. Il y a toute une série d'arguments qu'on peut développer très, très fort là, sur le fait, parce qu'on compare avec d'autres passages des Écritures. Moi, je crois pas que c'est des périodes, comme certains chrétiens disent. Là. Alors, les jours, les six jours sont des jours véritables et non des époques de milliers d'années, comme aujourd'hui, on défend cette idée-là. Donc, le premier jour, le Seigneur dit qu'il a fait le ciel, la terre et la lumière. Le deuxième jour, il dit qu'il a fait l'étendue, ce qu'on appelle, nous, le ciel. Le troisième jour, il a fait la terre, les mers, la verdure, l'herbe et les arbres. Quatrième jour, le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, les oiseaux et les poissons. Le sixième jour, le bétail, les reptiles, l'homme et la femme. Et le septième jour, Dieu dit qu'il se reposa. Donc, l'ordre indique la progression du moins parfait au plus parfait. De l'inanimé à l'animé, de l'irrationnel au rationnel, et le Seigneur a déclaré le tout très bon. Alors, Dieu lui-même, après qu'il a eu fini, Elle dit, et tout cela est très bon. Quand Dieu dit que c'est très bon, c'est très bon. La fin de la création, maintenant, pourquoi Dieu a fait toutes ces choses-là? On serait porté à penser que c'est pour nous autres. On a toujours l'idée d'être anthropocentrique. Et le Seigneur lui dit que ce n'est pas pour nous qu'il a fait ça, c'est pour sa gloire. La fin ultime de la création, c'est sa gloire. Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Et la fin subordonnée, donc le bonheur de l'homme et plus particulièrement celui des élus. 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de la leçon d'aujourd'hui? En voir au moins deux. Dans l'œuvre créatrice de Dieu, nous pouvons admirer son intelligence insondable, sa sagesse infinie et sa toute-puissance inconcevable. Alors, c'est sûr que si quelqu'un se met à étudier un petit peu l'astronomie moderne, vraiment étudier, rentrer un peu là-dedans dans les détails, c'est sûr que ça fait un lien avec la puissance de Dieu, si c'était un croyant. Deuxième application, n'hésitons pas à croire au créationnisme et à la Terre jeune, environ 6000 ans, malgré les mensonges de l'évolutionnisme. J'ai pas peur de mes mots, mensonges. Beaucoup d'excellents scientifiques chrétiens ont écrit sur ce sujet. Ne soyons pas paresseux et familiarisons-nous avec leurs arguments et leurs œuvres. Nous vous suggérons de visionner les ressources disponibles de l'excellent site créationniste de l'Association de sciences créationnistes du Québec, que vous pouvez trouver à www.creationisme.com, et plus particulièrement cet excellent article sur l'âge de la Terre, qu'on trouve sur le même site, l'âge de la Terre, preuve de la jeunesse de la Terre, de l'univers. Alors, il y a un article là qui décrit avec des détails sur l'âge de la Terre. Et bien souvent, c'est ce qu'on vous disait tantôt, c'est pas parce que les choses n'existent pas. Il y a, là, je vous parle d'un site francophone, québécois, où qu'on a mis beaucoup de vidéos, d'articles, de livres, de toutes choses pour appuyer l'idée du créationnisme. Alors, si on ne sait pas défendre notre point, c'est pas parce qu'il n'existe pas tout ce qu'il faut pour être capable de le faire. Alors que l'Éternel soit loué, béni et adoré éternellement. Amen.